Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et oui, l'antenne vous appartient comme tous les jours à cette heure-ci. RFI vous donne la parole. Dans 30 minutes, vous commenterez l'actualité de votre choix. Ce sera la libre antenne. Vous nous interpellez sur les événements qui vous ont marqué cette semaine. Tous les sujets nous intéressent. Donc, rejoignez-nous. C'est à vous de lancer le débat sur l'antenne d'RFI. C'est l'occasion, vous le savez, de nous interpeller sur des sujets qui ne font pas la une de la presse, des sujets dont on n'a pas forcément parlé dans l'émission. D'ailleurs, vous qui nous écoutez à l'étranger, parlez-nous de l'actualité dans votre pays. 33 9 693 693 70. Vous pouvez également nous rejoindre via les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. N'oubliez pas de nous indiquer un numéro de téléphone afin que nous puissions vous rappeler, que vous puissiez être évidemment en direct avec nous. Mais d'abord, comme tous les jours, ce sont vos questions à la rédaction. C'est votre rendez-vous privilégié avec les journalistes d'RFI. Et aujourd'hui, ce sont des lycéens qui poseront leurs questions d'actualité. C'est la semaine de la presse et des médias dans l'école et pour l'occasion, de nombreux ateliers sont organisés en France mais aussi dans les établissements scolaires français à l'étranger pour aider les jeunes à comprendre les médias, à développer leur goût pour l'actualité mais aussi à avoir évidemment un jugement critique sur la presse et sur le traitement de l'actualité. On a donc recueilli quelques questions de lycéens à travers le monde. Jules est avec nous. Bonjour Jules.
Bonjour.
Vous êtes en terminale ES au lycée français René Descartes de Phnom Penh au Cambodge, c'est bien ça ?
C'est ça.
Voilà.
Oui.
Et vous avez des questions concernant les départementales françaises ?
C'est ça. En fait, j'aurais deux questions à vous poser sur la stratégie du Nini de Nicolas Sarkozy, président de l'UMP.
Oui.
Donc, peut-elle encore tenir et au deuxième tour ? Et surtout, quelle analyse pourrons-nous en tirer ?
Vous suivez l'actualité politique française, Jules ?
Oui.
Oui, ça vous intéresse. Eh bien, surtout, ne raccrochez pas. Pierre Firsion, du service politique d'RFI, est à mes côtés. Bonjour, Pierre.
Bonjour, Juan.
Alors, on précise que effectivement, au soir du premier tour, Nicolas Sarkozy a été très clair. Il a précisé que l'UMP n'appellera à voter ni pour le Front National, ni pour le Parti Socialiste. C'est la fameuse stratégie du Nini. Elle peut tenir et elle tiendra jusqu'au bout, jusqu'à dimanche soir, cette stratégie ?
A priori, elle est bien partie pour tenir parce qu'on voit que c'est une stratégie qui est assez populaire au sein de l'électorat UMP et qui, ça on va y revenir, mais aussi au sein du parti en lui-même. C'est une décision qui a été prise au sein du bureau politique du parti. Tout le monde n'y était pas forcément d'accord. Même Nicolas Sarkozy lui-même au départ n'était pas forcément d'accord avec cette stratégie. Il l'avait dit en bureau politique. Vous savez, c'est une stratégie qui n'a pas forcément fait ses preuves. Mais résultat, il est revenu en arrière parce que son bureau politique, c'est-à-dire le gouvernement du parti a décidé de dire eh bien c'est la meilleure stratégie.
Et pourquoi ? Quelles sont les raisons invoquées pour dire aujourd'hui c'est la meilleure stratégie ?
C'est la meilleure stratégie parce que leur idée c'est de dire le Parti Socialiste a souvent joué dans l'histoire, François Mitterrand en premier, aujourd'hui Manuel Valls, joue avec le Front National et on ne veut pas donner des gages au Parti Socialiste. Donc on ne veut pas choisir entre le Parti Socialiste et le Front National, et donc on ne veut pas faire profiter, d'ailleurs j'ai là la phrase que Nicolas Sarkozy a encore prononcée en début de semaine, nous ne voterons ni pour le Front National, ni pour ceux qui font monter le Front National. Voilà, donc c'est leur stratégie. Derrière ça aussi, ils veulent pas cautionner en fait. Si vous faites un Front Républicain, si vous appelez à voter pour le candidat socialiste, les cadres UMP ont peur de se voir reprocher par leur électorat de dire en gros vous cautionnez la politique du gouvernement. Or on sait que l'UMP est vent debout contre cette politique menée par François Hollande et par Manuel Valls.
En tout cas pour le Premier ministre Manuel Valls, le nini de Nicolas Sarkozy est une faute morale. Il l'a dit cette semaine chez nos confrères d'RTL, un avis qui est largement partagé au parti socialiste. Alors, vous le disiez, les sympathisants UMP, eux, approuvent véritablement cette stratégie à 82%.
Oui, ils approuvent véritablement cette stratégie. On sait que la base de l'UMP est une base assez droitière. Sans doute que la base du parti, l'électorat du parti, est plus à droite que la classe, enfin que les dirigeants du parti. Il y a eu un sondage qui est sorti il y a quelques semaines où une majorité disait qu'ils approuvaient le Nini. Et si on faisait le détail en fait des gens, des reports de voix, on s'apercevait que il y en avait à peu près 30% qui allaient se reporter vers le Front National et 30% vers le PS. Donc s'il y avait eu un Front Républicain, il y aurait juste une minorité de l'électorat UMP qui aurait suivi, vous voyez, les dirigeants de leur parti. Donc en fait, je pense que si l'UMP a fait ça, c'est surtout pour ne pas se couper de sa base. Parce qu'ils s'aperçoivent que la base est beaucoup plus à droite, ils ne veulent pas se couper de sa base, et c'est aussi peut-être avec une arrière-pensée, c'est pour se dire aussi, on veut pas stigmatiser non plus l'électorat Front National.
On a répondu à vos questions, Jules?
Oui.
On vous souhaite une bonne fin d'après-midi à Phnom Penh.
Merci et à vous, bonne journée.
Merci à vous. RFI à Phnom Penh, c'est sur les 92 FM. Autre question toujours sur les départementales en France. C'est un sujet qui intéresse apparemment les lycéens dans les lycées français à l'étranger. Bonjour Oumou Kalfoun.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Bamako. Vous êtes en terminale littéraire, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Au lycée français Liberté. On vous écoute avec Pierre Firsion du service politique d'RFI.
En fait, j'ai deux questions à propos des élections départementales qui ont eu lieu récemment en France et à propos des présidentielles. Je voudrais d'abord savoir quelles peuvent être les conséquences de la montée en puissance de l'extrême droite pour la France. Et si le FN peut gagner les présidentielles de 2017?
Alors, le Front National, qui certes réalise son meilleur score dans une élection locale, mais enfin, il n'y a pas eu cette vague bleu marine annoncée par les instituts de sondage. En tout cas, c'est vrai que le Front National réalise là une véritable performance.
Ah oui, il réalise là son meilleur score, et en plus, dans un scrutin qui favorise pas généralement le Front National, c'est un scrutin majoritaire, et qui généralement profite plus aux petits pouvoirs locaux, c'est-à-dire aux élus bien ancrés localement, ce que n'étaient pas les élus frontistes. Pour répondre directement à la question d'Autoditis, la première conséquence, c'est qu'on pourrait dire c'est que le parti va accéder désormais aux exécutifs départementaux. On rappelle que le Front National n'avait qu'un seul conseiller départemental, enfin un seul conseiller général à ce jour. Cette fois, il va en avoir des dizaines, ce qui va lui permettre de peser au sein de ses conseils départementaux et de faire passer ses idées, tout simplement. Les frontistes pourraient même remporter un ou plusieurs départements, voire dans certains cas, dans certaines collectivités, il n'y aura pas forcément de majorité claire, et bien ils pourraient négocier leur soutien. On voit donc qu'ils vont un petit peu plus peser, que leur pouvoir va s'accroître, et là on parle seulement des départements, parce qu'il va y avoir ensuite les élections régionales au mois de décembre. Là, Marine Le Pen l'a dit l'autre soir, on vise la victoire dans 4 régions. On sait que par exemple dans la région Nord-Pas-de-Calais, dans la région PACA, ils seront sans doute peut-être en tête au soir du premier tour. Ils ont ils auront peut-être pour la chance de remporter ces exécutifs. Donc au sein des régions, ils vont aussi extrêmement peser, ils vont avoir beaucoup de poids au sein de ces régions-là, et sachant que les régions, en plus, avec la réforme territoriale, sortent renforcées, on pourrait dire, de la réforme territoriale.
Et après les régions, il y aura évidemment la présidentielle en 2017. Oumou Kalfoun nous demandait, est-ce que le Front National a aujourd'hui des chances de remporter ce scrutin?
Alors c'est vrai que le Front National progresse scrutin après scrutin, notamment depuis l'arrivée de Marine Le Pen à sa présidence. Il poursuit, on le disait, son maillage territorial, et ça a une vraie importance. Marine Le Pen est convaincue que le pouvoir se prend par la base. Son objectif, c'est donc de montrer que bien que son parti est capable de gérer des collectivités. Alors, pour répondre directement à la question, moi, je dirais qu'il y a encore beaucoup trop d'inconnus pour savoir si le FN a une chance de l'emporter, parce que on ne sait pas qui sera candidat de l'UMP et du PS, on ne sait pas quelle sera la situation économique du pays à la fin 2016, début 2017, on ne sait pas non plus quel sera le bilan des collectivités gérées par le Front National, est-ce que ce sera un bon ou un mauvais bilan, et toutes ces réponses à ces questions permettront à ce moment-là d'y voir plus clair. Ce qui est sûr, c'est que à l'heure où on parle, le FN est certes sur une phase ascendante, mais pour gagner la présidentielle, il faut obtenir la majorité des voix. À l'heure actuelle, on s'aperçoit que 2/3 des Français ont une opinion négative de Marine Le Pen et du Front National.
On suivra ça. En tout cas, on suivra déjà le second tour des départementales dès dimanche soir, évidemment, sur RFI à 19h10, heure de Paris, avec les premiers résultats, les premières tendances à partir de 20h, soirée spéciale avec l'ensemble du service politique d'RFI. Oumou Kalfoun, on a répondu à votre question?
Oui, tout à fait.
Bonne journée à Bamako.
Merci, bonne journée à vous.
Et bon courage pour le bac, hein, vous êtes en terminale littéraire au Mali. 33 9 693 693 70, ce sont des lycéens qui posent leurs questions d'actualité à l'occasion de la semaine de la presse et des médias dans l'école AMA. Bonjour.
Bonjour Juan.
Bienvenue sur l'antenne des RFI. Vous nous appelez d'Abidjan?
Oui.
Terminale ES au lycée Blaise Pascal. Et vous avez une question de politique internationale. Vous vous intéressez au Yémen?
Alors tout d'abord, je souhaiterais savoir, est-ce que le Yémen se dirige vers une guerre civile? Et ensuite, quelles peuvent être les conséquences économiques si les militants houthis arrivèrent à s'emparer du détroit de Bab el-Mandeb?
Ah, le Yémen, effectivement, qui fait la une de l'actualité internationale, qui est plongé dans une profonde crise depuis hier. Une coalition de pays arabes menée par l'Arabie Saoudite effectue des frappes aériennes contre les rebelles houthis. Alors, pour essayer de vous expliquer le chaos yéménite, c'est une situation particulièrement complexe, on a contacté Fatia Dazieni. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des pays du Golfe. Vous êtes également chercheur à Sciences Po Lille. Merci de nous accorder quelques minutes de votre emploi du temps. D'abord, on parle beaucoup de ces rebelles chiites houthis. En quelques mots, qui sont-ils?
Oui, alors les rebelles chiites houthis sont comme près de 40% de la population yéménite de confession donc chiite, zaïdite. Et en fait, le zaïdisme est une variante du chiisme, mais très éloignée du chiisme pratiqué en Iran. En fait, le zaïdisme est beaucoup plus proche du sunnisme. Et donc, aujourd'hui, le fait d'interpréter la confusion générale au Yémen, et donc surtout depuis le coup d'État fomenté par ces rebelles houthis, au mois de février dernier, qui se sont emparés de la capitale Sanaa, du pouvoir, et ont chassé le président Hadi, le président légitimement élu, on a tendance à effectivement à caricaturer un petit peu la situation au Yémen comme une guerre confessionnelle sectaire. Il faut voir que le Yémen vit un conflit, une situation multiconflictuelle. Vous aviez donc le conflit au nord avec les rebelles houthis, qui voulait plus, au départ c'était une rébellion beaucoup plus orientée sur une autonomie économico-politique.
Ouais, ils se disaient marginalisés, ils disaient vouloir lutter contre la corruption, voilà, ça c'était leur première revendication. Ensuite,
parce que le pouvoir central yéménite est extrêmement faible et s'est totalement affaissé à cause justement de la longévité de l'ancien président Ali Abdellah Saleh, qui aujourd'hui est en collusion avec les rebelles houthis pour se venger justement d'avoir été exclus du pouvoir. Donc c'est un peu, comme vous l'aviez dit, très bien dit au début, extrêmement complexe. Et au sud, on a également une sorte de sécession, une volonté sécessionniste au sud. Pareil, plusieurs partis se rebellent également contre le pouvoir central et ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc vous avez 4 à 5 conflits parallèles.
Et pour compliquer davantage la situation, à cela s'ajoute la présence d'Al-Qaïda.
Oui, bien sûr. Alors Al-Qaïda qui a été chassé d'Arabie Saoudite puisque le pouvoir saoudien a réussi à combattre les cellules djihadistes d'Al-Qaïda qui étaient implantées en territoire saoudien dans les années 2000. Se sont reportés sur le territoire yéménite, donc plus faible, plus vulnérable, depuis janvier 2009. Donc Al-Qaïda était très implanté. Par contre, la grande surprise, c'est le fait que l'État islamique, aujourd'hui, est également, d'après les attentats spectaculaires auxquels on a assisté
la semaine dernière,
ça c'est une vraie surprise parce que il n'y a pas d'implantation de l'État islamique au Yémen, à moins qu'Al-Qaïda ait commencé à se scinder en plusieurs groupes, c'est apparemment ce qui se passe au Yémen, d'où, comme vous le dites, la situation est extrêmement complexe de ce pays.
Alors, est-ce qu'on se dirige vers une guerre civile ou pas? C'était la question initiale notre étudiante.
Oui. Donc le problème, c'est que le pouvoir central est totalement... il n'existe plus, il n'y a plus d'État au Yémen. Ça, effectivement, ça encourage effectivement une sorte un petit peu de somalisation. Il faut savoir aussi que le Yémen est l'un des pays les plus armés au monde. Donc quand on parle aussi de l'influence iranienne sur les rebelles houthis, il faut aussi faire attention. Les rebelles houthis achètent des armes, se procurent des armes au Yémen. C'est le pays où il y a le plus d'armes, peut-être, dans le monde. La situation yéménite est due essentiellement à des problèmes endogènes. Maintenant que l'Iran tire parti un peu de cette situation, évidemment, c'est tout à fait possible. Mais dire que l'Iran est à l'origine de la radicalisation des rebelles houthis, etc., c'est aller un peu vite en besogne.
Ouais. C'est vrai que certains n'hésitent pas à parler de guerre par procuration entre l'Arabie Saoudite et l'Iran sur le territoire du Yémen. On parlera d'ailleurs du Yémen tout à l'heure en libre antenne, puisqu'on me fait signe que certains auditeurs souhaitent commenter les événements de ces derniers jours. Donc on leur donnera évidemment la parole. Merci beaucoup Fatia Dazieni d'avoir été avec nous. Ama, on vous souhaite évidemment une bonne journée à Abidjan et bon courage donc pour votre baccalauréat. Autre question toujours d'Abidjan, c'est Maxence qui est avec nous. Bonjour Maxence.
Bonjour Juan.
Bienvenue sur RFI. Vous êtes en quelle classe ?
Je suis en terminale littéraire.
Très bien. Et vous avez des questions ? On vous écoute.
Oui, alors je voulais savoir pourquoi les groupes terroristes attaquaient le patrimoine culturel en Afrique et au Moyen-Orient, à l'image de Daesh en Irak. Et aussi, je me demandais comment protéger ce patrimoine et que faisait l'UNESCO pour le préserver.
Ouais, c'est vrai qu'on a encore ces images, encore toutes fraîches, hein, du début du mois, de djihadistes de l'État islamique détruisant à coups de massue des œuvres très très rares dans le musée de Mossoul en Irak. Bonjour Isabelle Chenu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la chef du service culture d'RFI. Pourquoi les groupes terroristes s'attaquent à la culture, au patrimoine culturel ?
Eh bien parce que détruire la culture, c'est détruire ce qui fait l'histoire des peuples. Alors les djihadistes de l'organisation État islamique, par exemple, qui entendent imposer un ordre nouveau, bah, ciblent systématiquement les symboles du creuset culturel qu'a constitué l'ancienne Mésopotamie, où ont vécu pendant des millénaires des Assyriens, des Babyloniens, des Perses, toute une communauté, une mosaïque de communautés aux symboles et aux croyances diverses. Et les terroristes détruisent ces symboles culturels avec l'idée folle de purifier la région de ce qui faisait sa richesse. Chez tous les groupes terroristes, il y a une volonté de prise de pouvoir totale, pas seulement sur les territoires, mais aussi sur l'identité culturelle des peuples. J'ai envie de dire, c'est malheureusement classique. On se souvient en 2000 ans, en Afghanistan, des talibans qui avaient pilonné les bouddhas de Bamiyan, hein, ces sculptures monumentales taillées dans la falaise, vieilles de 15 siècles, qui étaient les symbole, selon eux, d'une religion dégénérée. Plus récemment, ce sont les célèbres manuscrits de Tombouctou qui datent du XIIIe siècle, qui ont été détruits au Mali. Et puis, vous l'avez dit, il y a quelques semaines, bah, c'était au marteau-piqueur, dans le musée de Mossoul, ce musée qui contient les vestiges d'une civilisation plusieurs fois millénaire. Et toutes ces destructions sont aussi une façon de rendre plus difficile la réconciliation des populations et la réinstallation des communautés d'origine, qui, lorsqu'elles ont été chassées, reviennent moins volontiers sur place quand elles ont perdu, bah, par exemple, leur lieu traditionnel de culte et tout ce qui faisait sens historiquement à leur implantation dans une région.
Ouais. Maxence nous demandait comment protéger ce patrimoine. C'est évidemment très, très difficile. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'UNESCO, évidemment, se mobilise.
Oui, alors, ce que je voulais dire quand même, c'est qu'effectivement, il y a des destructions volontaires, mais le patrimoine archéologique et historique souffre principalement de la guerre. Hein. La propagande des terroristes qui nous montrent des vidéos de destruction volontaire, ça marche évidemment, hein, ça a un impact médiatique, mais c'est la guerre par exemple en Syrie depuis 4 ans qui fait les ravages les plus graves. Alors l'UNESCO, bah, comment faire ? Bah, l'UNESCO crie à l'aide, hein, dans le cas de la Syrie, du Mali, on est dans des pays en guerre, dans des zones de combat, l'UNESCO n'a pas d'armée, elle ne peut pas intervenir concrètement, elle a même du mal à faire un état des lieux.
Enfin, c'est quand même
mais elle peut par exemple saisir les institutions internationales.
C'est un crime de guerre, quand même.
Oui, tout à fait. Par exemple, Irina Bokova, la présidente de l'UNESCO, a saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi le procureur de la Cour pénale internationale, car la destruction délibérée du patrimoine culturel est un crime de guerre qui est clairement indiqué dans le statut de la Cour pénale.
Et on peut, en tout cas, déjà, peut-être essayer de lutter contre le trafic des œuvres d'art, puisque la vente d'objets d'art rapporte quand même beaucoup d'argent aux terroristes.
Tout n'est pas détruit volontairement, en fait, hein, par les terroristes. C'est mis en scène, mais il y a beaucoup de choses qui sont vendues au marché noir et qui rapportent pas mal d'argent. Il y a beaucoup de trafic sur l'est de la Syrie et le nord de l'Irak, avec les soldats qui charge les populations locales ou des bandes organisées bien entraînées, évidemment à piller en fait, hein, et ensuite à revendre sur le marché international ces trésors. Donc effectivement, il y a toute une police qui travaille sur ces réseaux.
Merci beaucoup Isabelle Chenu. Maxence, merci de nous avoir appelés d'Abidjan. Reste avec nous, la suite dans 10 minutes.